plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Le commandant nous est tombé du ciel cet après-midi. Nous ne l'attendions pas avant la fin de la semaine. Madame elle-même en parut interloquée. Le commandant avait les traits tirés. Avec son petit short fripé et sale, il avait l'air d'un gamin qui vient de faire l'école buissonnière. Il ne dessera pas les dents quand il descendit de voiture. Il prit sa serviette, effleura le front de madame de ses lèvres et se dirigea pesamment vers sa chambre. Madame, après nous avoir ordonné de décharger la voiture, le suivit aussitôt. Elle laissa la porte ouverte. Elle appela son mari et lui demanda ce qui n'allait pas. Le commandant répondit par un grognement et sa femme continua à le harceler de questions. Finalement, il lui dit qu'elle avait trop bonne mine pour s'inquiéter vraiment de lui. Elle resta un moment silencieuse, puis elle dit au commandant qu'il était injuste. Elle vint s'allonger dans son hamac sur la véranda et rêva longtemps. Quand le commandant se fut reposé, il commanda une douche. Un peu plus tard, lavé, pommadé, il avait retrouvé ses couleurs. Il avait mis son complet de lin blanc. Il parcourut le courrier officiel que le planton avait apporté à madame. Elle ne disait mot. Le commandant sembla l'oublier tout à fait. Il sortit dans le jardin, s'éloigna un peu de la résidence, les mains dans les poches. Il revint vers la véranda, parut aller vers sa femme, mais obliqua vers le salon. Madame descendit de son hamac et alla dans le jardin à son tour. Le commandant m'appela et m'envoya la chercher. Elle regardait fixement devant elle, le menton entre le pouce et l'index de la main droite. Elle ne m'entendit pas venir et sursauta quand je toussais. Elle m'écouta sans rien dire et me suivit à la résidence. Quand le commandant m'avait appelé, il m'avait semblé qu'il s'était ravisé au dernier moment pour m'envoyer chercher madame. Il était à moitié allongé sur le divan. Sa main cachait quelque chose. C'était l'heure de l'apéritif. Quand madame rentra, je m'éternisais au salon, auprès de ce réfrigérateur qui était mon vieux prétexte. Le commandant ne regarda pas sa femme dans les yeux. Il semblait lointain et amer.
« Qu'est-ce que tu as ?»
Le commandant se déroba, puis m'apercevant se laissa toucher par sa femme. Il gardait toujours sa main gauche fermée sous la table. Les yeux de madame et les miens convergeaient sur elle. Il leva son verre de sa main libre et le vida d'un seul trait. Il demanda du cognac.
« Du cognac, bon Dieu !»
Il emplit deux verres qu'il but coup sur coup. Madame voulut l'arrêter. Le commandant retira vivement son bras. Madame s'enfuit dans sa chambre. Le commandant voulut se lever, mais il tomba. Il manqua le divan et s'affaissa sur le sol. Je l'aidai à se relever. Il me traita de tous les noms. Jamais je ne l'avais vu ainsi, même avant l'arrivée de madame. Il réussit tant bien que mal à s'asseoir. Il resta longtemps ainsi à regarder le plafond, les mains croisées sur le ventre. Madame sortit de sa chambre en coup de vent et m'ordonna de m'en aller.
« Non, qu'il reste ! Reste !»
Il s'assit au bord du divan. Il regardait sa femme qui semblait pétrifiée au milieu du salon. Soudain, il lança violemment dans sa direction un objet qui glissa jusque vers le réfrigérateur. C'était un briquet. Le briquet de M. Moreau. Je ne l'avais vu qu'une seule fois, lorsque M. Moreau était venu dîner à la résidence, mais je le reconnaissais bien. Madame prit sa tête entre ses mains et se laissa choir dans un fauteuil.
« Et ça ?»
cria le commandant en désignant le briquet.
« Qu'en dis-tu, hein, Madame Decazy ?»
À ces mots, des sanglots commencèrent à secouer les épaules de madame. Mais elle ne se laissa pas aller et releva fièrement la tête.
« Boy, laisse-nous. » »«
Nous laisser ? Quel secret y a-t-il encore entre nous ? Tous les boys de Dangan sont au courant. Oui, tu couches avec Moreau, le monsieur que tu trouvais très paysan. »
Madame se leva. Elle allait d'un bout à l'autre du salon tout en se tordant les mains. Le commandant la fixait d'un regard plein de haine. Elle passait et repassait devant lui, tout en jetant de brefs coups d'œil sur le briquet. Faisant un tour complet sur elle-même, elle fit face à son mari. Le regard du commandant passa aussitôt par-dessus son épaule, puis se perdit vers la fenêtre ouverte.
« Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Tu n'as pas attendu longtemps pour me tromper, encore ici. Les indigènes étaient au courant, bien avant moi. »
Il ébaucha un pâle sourire et reprit.
Pour eux, je n'étais plus que le Ngovina, Yangal, Aves, Zou, Bisalak, Abemetoua. Sais-tu ce que cela veut dire? Bien sûr que non. Tu as toujours méprisé les dialectes indigènes. Eh bien, partout où je passe, je ne suis plus que le commandant dont la femme écarte les jambes dans les rigoles et dans les voitures.
Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai!
Elle se mit à sangloter.
Je ne savais pas que j'avais l'honneur d'avoir été fait cocu par M. Moreau. Cette fois-ci, tu as été chercher ton amant dans la boue. Tu ne peux pas savoir à quel point je me dégoûte.
Madame pleurait toujours. Le commandant se rallongea sur le divan.
Écoute, mon chéri.
Je sais, je sais.
Coupa le commandant riant du bout des lèvres.
Je connais la chanson. Ta grande faiblesse, ta facilité à perdre les pédales, le conflit de l'âme et de la chair. Eh bien, j'en ai marre, m'entends-tu? J'en ai marre. Tu m'as toujours pris pour un imbécile. Ah, t'es sorti en voiture le jeudi. Ce monsieur Moreau dont tu ne parlais que rarement et avec quel dédain. Tu l'avais invité ici en prétendant que nous ne devrions pas le mépriser parce qu'il n'était pas de notre monde. Ma petite, je te voyais déjà. Les indigènes m'appelaient déjà le Ngovina Yangal Aves Zout Bisalak Abe Metoua. Seulement, je ne savais pas que c'était avec celui-là. Et toi ?
Cria-t-il en levant la tête dans ma direction.
C'était toi qui servais d'intermédiaire, hein ? Pour une cigarette de Moreau ou pour un cadeau de madame, hein ?
Il hocha tristement la tête et retomba sur le divan. Madame pleurait toujours. L'horloge de la résidence sonna minuit. Le commandant me regarda de biais et je sentis les yeux de madame à travers les doigts de mes mains. Je dénouai mon tablier. Avant de sortir par la véranda, où je l'accrochais tous les soirs après mon travail, je m'inclinai et leur souhaitai bonne nuit. Le commandant remua sur son divan et se retourna contre le mur. Madame vint fermer la porte sur mes talons. Dehors, c'était une nuit d'aveugle, une nuit sans étoiles ni lucioles. Calicia m'écoutait, la bouche ouverte. Elle faisait claquer ses doigts d'étonnement de temps en temps. Quand je finis de lui raconter la scène à laquelle j'avais assisté, elle me regarda avec appréhension, puis détourna la tête.
Si j'étais à ta place, je m'en irais maintenant, alors que la rivière ne t'a pas encore englouti entièrement. Nos ancêtres disaient qu'il faut savoir se sauver lorsque l'eau n'arrive encore qu'aux genoux. Tant que tu seras là, le commandant ne pourra oublier. C'est bête, mais avec les Blancs, c'est comme ça. Pour lui, tu seras, je ne sais comment appeler ça, tu seras quelque chose comme l'œil du sorcier qui voit et qui sait. Un voleur ou quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher ne peut jamais se sentir tranquille devant cet œil-là.
Mais je ne suis pas le seul à savoir que madame couche avec M. Moreau. Le commandant a bien dit que tous les indigènes étaient au courant.
Ça n'a pas d'importance. À la résidence, tu es quelque chose comme notre... je ne sais comment dire. Quelque chose comme notre représentant. Je ne parle pas de mon parent le cuisinier, ni de Bakou, qui ne sont des hommes que parce qu'ils ont des couilles. Moi-même, si j'avais la folie d'épouser un homme, ce serait quelqu'un comme toi. Je disais donc que, puisque tu connais toutes leurs affaires, ils ne pourront jamais oublier tout à fait tant que tu seras là. Et ça, ils ne te le pardonneront pas. Comment pourraient-ils encore faire le gros dos et parler, la cigarette à la bouche, devant toi qui sais? Pour eux, c'est toi qui as tout raconté. Et malgré eux, ils se sentent jugés par toi. Ils ne peuvent admettre ça. À ta place, je te jure que je m'en irai, et sans même demander mon moi.
Calicia me regarda comme si j'allais détaler à ses paroles. Elle battit ses paumes, puis dénoua son pagne en faisant un gros nœud sous sa veste.
Tout mon sang vient de trembler. C'est comme si j'allais avoir une mauvaise nouvelle ou comme si un triste événement allait arriver. Je sens toujours ces choses-là.
Elle évitait de me regarder tant que nous cheminâmes côte à côte jusqu'à la résidence. Pour m'obliger à aller seule, elle s'engouffra dans un bosquet et me lança.
Avance seule. Je vais voir M. Vessé, à qui on ne lève pas le chapeau, mais le pagne.
Avais-je peur? Je ne saurais le dire. Rien de ce que m'avait dit Calicia ne me paraissait étrange. Il y a des choses auxquelles on n'aime pas penser, mais qu'on n'oublie pas pour cela. En sortant de la résidence, hier soir, je m'étais retourné à plusieurs reprises dans la nuit. Je pensais qu'on me suivait. Je rentrais chez moi avec un froid dans le dos. Allongé sur ma natte, je revivais la scène de la résidence. Il ne faisait pas de doute que le commandant avait l'habitude d'être trompé par sa femme. Je comprends maintenant sa candeur, sa subtilité volontaire quand mes compatriotes, après l'avoir salué, criaient « Govina Yangal avez zoum bizalak » sur notre passage. Il se mettait alors à siffler ou bien, pour leur montrer qu'il ne comprenait rien, il se penchait à la portière en portant l'index sur le bord de son casque. Aujourd'hui, journée sans histoire. À part l'hostilité toujours croissante du commandant, il en devient complètement fou. Ses injures et ses coups de pied ont recommencé. Il croit m'humilier ainsi et ne le peut autrement. Il oublie que tout cela fait partie de mon métier de boy, un métier qui n'a plus de secret pour moi. Je me demande à quoi il pense en m'appelant maintenant lui aussi, Monsieur Tundi. J'ai surpris le commandant et madame en train de s'embrasser. Je croyais qu'il tiendrait plus longtemps. Il avait l'air d'un petit enfant qu'on surprend en train de voler ce qu'il a ostensiblement dédaigné. Après ça, je comprends que madame puisse en faire tout ce qu'elle veut.
« Tu nous épies maintenant, espèce d'idiot !»
a hurlé le commandant en s'essoufflant. Il n'osa me regarder de la soirée, tandis que madame, un petit sourire sur les lèvres, les yeux réduits à deux traits, nous fixait tour à tour en tapotant ses doigts sur la table. Tout en parlant à sa femme, le commandant m'écrasait la main gauche. Il avait réussi à me la prendre sous sa semelle pendant une seconde où je ne faisais pas attention alors que je donnais un dernier coup de brosse à ses bottes. Le commandant manque d'imagination et de mémoire. Il a oublié qu'il m'avait déjà fait le coup une fois et que je n'avais pas crié. Il s'en est encore allé sans se retourner, mais cette fois-ci avec le petit pas alerte de l'homme très content de lui. Le nez dans son journal, assis sur le divan à côté de sa femme, le commandant faisait semblant de lire. J'achevais de desservir la table dans la chaleur de l'après-midi. Jusque-là, le commandant n'avait pas de serrer les dents. Il a le génie des œillades, surtout quand elles sont courroucées. Elles m'étaient toutes destinées. À table, madame, après lui avoir posé sans succès des questions sur sa matinée, s'était mise à rêvasser, ne s'interrompant que pour se servir au plat suivant. Elle lisait maintenant à côté de son mari, dont je percevais le mouvement des sourcils au-dessus de son journal.
« Quelle chaleur !»
dit-il en déboutonnant sa chemise kaki.
« Quelle chaleur !»«
Tu n'as qu'à enlever ta chemise et garder ton maillot. »
lui dit sa femme. Il déboutonna entièrement sa chemise et la sortit de son short, mais ne l'enleva pas. Sa femme le regardait avec indifférence. Elle se replongea dans son roman. Le commandant demanda un verre d'eau. Au moment où je le lui apportais, il me demanda si l'eau avait été bouillie. « Comme d'habitude, » répondis-je. Il prit le verre entre le pouce et l'index, le leva jusqu'au niveau de ses yeux, l'éloigna, le leva au-dessus de sa tête, le ramena au niveau de ses yeux, le porta sous ses narines, fit une grimace, le reposa sur le plateau et demanda un autre verre. Sa femme haussa imperceptiblement les épaules. Je revins au réfrigérateur et profitai de l'instant où le blanc ne me regardait pas pour cracher. Oh, pas grand-chose, deux gouttes seulement, dans un autre verre où je lui versais de l'eau. Il la but d'un trait, puis reposa le verre sur le plateau sans me regarder. Il m'éloigna d'un mouvement nerveux du revers de la main. Il plia son journal, s'étira puis se leva. Il se mit à respirer bruyamment comme s'il était incommodé par quelque odeur. Son nez, semblable à une girouette, tournait dans tous les sens. Il s'immobilisa en direction d'un volet que la brise avait refermé.
« Ça sent, ici, va ouvrir ce volet »
m'ordonna-t-il. Madame remua ses narines et respira l'air autour d'elle avec un délicat mouvement du buste. Elle regarda son mari qui lui tournait le dos et se mit à lire. Quand j'eus ouvert le volet, je repassai devant le commandant. Il me fit signe au passage de m'arrêter.
« C'est peut-être toi !»
dit-il en remuant son nez.
« C'est peut-être toi !»
Madame leva les yeux au ciel. Il m'éloigna d'un mouvement du menton. Il revint sur le divan, déchira un bout du journal et alla caler le volet que je venais d'ouvrir et qui ne s'était pas refermé.
Quand on a des nègres, il faudrait que toutes les issues soient toujours largement ouvertes,
disait-il en s'évertuant à glisser le papier dans la charnière de la fenêtre. Il sortit dans la véranda et s'allongea, la poitrine découverte sur une chaise longue. On m'a arrêté ce matin. J'écris ces lignes, les fesses meurtries, dans la case du chef des gardes qui doit me présenter à M. Moreau dès qu'il sera revenu de tournée. Cela s'est passé au moment où je servais le petit déjeuner à mes maîtres. L'ingénieur agricole, flanqué de gosiers d'oiseaux, arriva dans un grand grissement de freins. Ils montèrent en courant l'escalier et s'excusèrent de déranger le commandant de si grand matin.
« Il s'agit de votre boy »,
dit gosier d'oiseau en obliquant son cou dans ma direction. La cafetière me tomba des mains et s'écrasa sur le ciment.
« Il sait pourquoi nous venons, n'est-ce pas, mon ami ?»
Le commandant repoussa sa tasse, se suya la bouche et se retourna vers moi. Madame souriait en relevant le coin gauche de sa bouche. L'amant de Sophie était un peu désemparé. Il demanda à madame la permission de fumer une cigarette qu'il ne put allumer du premier coup. Seul, Gosier d'Oiseau semblait avoir tout son calme.
« Voilà. »
Commença-t-il.
« La cuisinière de M. Magnol a disparu avec la paye des manœuvres. »«
Je m'en suis rendu compte à 6 heures. »
coupa l'amant de Sophie avec un petit tremblement dans la voix.
« J'ai appelé ma cuisinière boy que vous connaissez. Sa chambre était vide.
Il toussa pour ne pas terminer son mot et pour dissimuler qu'il allait se reprendre alors qu'il était trop tard, puis il rougit.
Elle avait filé avec ma cassette et mes vêtements et ses nippes.
À son regard, j'ai cru qu'il allait me couper la tête.
Il paraît que c'est la fiancée maîtresse de votre boy,
dit Gosier d'Oiseau, très fier du mot composé qu'il venait d'improviser.
Aussitôt que M. Magnol m'a alerté, j'ai bloqué la frontière. Mes hommes fouillent le quartier noir. Nous avons pensé que votre boy...
Combien contenait la cassette ?
Demanda le commandant.
150 000 francs,
répondit l'ingénieur agricole.
150 000 francs.
Je vois,
dit le commandant en me regardant. Sa femme lui murmura quelque chose à l'oreille. Il écarquilla les yeux, ils discutèrent un moment. Le commandant se racla la gorge et me désigna du doigt.
Eh bien toi, qu'en dis-tu ? Tu connais la personne dont il s'agit ?
Oui, mon commandant.
Où est-elle ?
Il me regarda avec cette expression de satisfaction qui faisait gonfler le dessous de son menton tout en déséquilibrant ses épaules. Puis, après une petite discussion avec sa femme, il se frotta les mains et reprit sans me regarder.
« Eh bien, tu vas t'arranger avec ces messieurs. »
Gosier d'Oiseau remua son cou. L'amant de Sophie poussa un soupir. Madame appela Calicia.
« Donne-lui ton tablier, »
dit le commandant sans me regarder.
« Allez, viens !»
L'amant de Sophie sortit le premier. Ils s'excusèrent encore auprès du commandant et de sa femme. Je suivis les deux blancs. De grosses larmes coulaient sur les joues de Calicia, tandis qu'elle nouait mon tablier qui lui arrivait jusqu'aux chevilles. Madame, en sautillant comme une petite fille, courut vers son parterre de fleurs. Bakoulou et le cuisinier n'étaient pas encore arrivés. La sentinelle maudit tous les blancs dans notre langue. Gosier d'Oiseau et l'amant de Sophie étaient venus dans une jupe. Pour m'empêcher de me sauver, Gosier d'Oiseau monta derrière avec moi. L'amant de Sophie conduisait. Nous prîmes la direction du commissariat de police. Gosier d'Oiseau me tenait par la ceinture. De temps en temps, il m'écrasait le gros orteil avec ses brodequins tout en me regardant profondément. L'ingénieur agricole conduisait à toute allure. La jeep, tout en cahotant, semait la panique sur notre passage.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Présentation et réalisation Aussi Potin.